Les séminaires du Collège de France.
Bonsoir et bienvenue à tous. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, tous nos voeux renouvelés pour la nouvelle année et pour le serpent chinois qui va bientôt arriver. Aujourd'hui, après la conférence du professeur Fabrizio Pregadio la semaine dernière, qui malheureusement n'a pas pu être enregistré. Aujourd'hui, nous avons la très grande chance et vraiment l'immense plaisir d'avoir le professeur Stéphane Feuillat, que je pense on ne présente plus. Vous savez tous qu'il est professeur à l'Université Paris-Cité, que nous connaissions naguère sous le nom de Paris 7, Jussieu, Paris Diderot. Je résume toujours, en fait, le sentiment que j'entretiens à l'endroit de Stéphane Feuillat. Je dis toujours, c'est le meilleur d'entre nous. Alors, je sais qu'il déteste être présenté comme ça, mais j'ai jamais rien trouvé de mieux à dire. C'est que vraiment, je pense que c'est vraiment le meilleur d'entre nous. Donc aujourd'hui, donc il continue un petit peu sur la lancée du professeur Pregadio en nous parlant aujourd'hui des immortels, mais en relation avec la société. Il ne faut pas s'imaginer que les immortels, il faut avoir le nez en l'air pour les voir. Hein. Il faut aussi avoir les pieds sur terre. Je profite de cette séance où vous êtes venus très nombreux, hein, merci beaucoup, pour saluer alors des amis qui viennent de loin. Il y en a un que vous connaissez déjà qui vient de pas très loin, le professeur Claude Romano, philosophe ici à ma gauche. Et je salue le professeur Hans Sorsi, qui lui vient de plus loin, qui vient des États-Unis, de l'université de Chicago. Vraiment, nous sommes très très heureux de l'accueillir ici aujourd'hui. Bien, alors Stéphane, voilà, à toi.
Bon, merci tout d'abord au professeur Han Cheng et puis à Béatrice Laridon de m'avoir accueilli dans ce séminaire pour parler de l'immortel, mais d'une manière un petit peu différente de celle qu'a présenté Fabrizio Pregadio la semaine dernière, puisque je m'intéresserai moins aux pratiques, moins à la taxinomie ou à la typologie des immortels tels qu'on la trouve dans le Barputze, mais j'aimerais plutôt m'interroger sur une question assez simple. Un immortel, pourquoi faire? À quoi ça sert que se cristallise aux alentours du 3e, 4e siècle, dans le texte que je vais plus précisément lire, la figure de l'immortel. Donc, j'entends par là, en fait, peut-être relancer un petit peu cette question. Ce qu'on peut dire, en fait, c'est que la question de l'immortalité, en fait, dans la tradition taoïste, essentiellement chinoise, est globalement annexée par les études religieuses d'un côté, qui font de cette figure en fait un être à comprendre dans des pratiques essentiellement religieuses, et ou alors cette figure de l'immortel est renvoyée généralement au vaste catalogue des superstitions chinoises, catalogue immense, hein, des superstitions chinoises, c'est encore aujourd'hui un petit peu comme ça qu'on regarde cette figure en Chine continentale de nos jours. Donc ce que j'aimerais faire, en fait, c'est sortir un petit peu de ce cadre-là et puis me demander effectivement pourquoi, en fait, aux alentours du 3e siècle après Jésus-Christ, cette figure devient cardinale au point qu'elle va irriguer ensuite toute la tradition taoïste. Alors la figure est ancienne, simplement elle cristallise effectivement dans deux ouvrages de Gueron, d'un côté le Barfuzzi, le livre du maître qui embrasse la simplicité, dont on a parlé la semaine dernière, et puis un autre texte qui est le Shanxian Zhuan, qu'on peut traduire par les hagiographies des immortels divins ou par les biographies des immortels divins, ou encore, et c'est peut-être la traduction que je préfère, des traditions sur les immortels divins. Ouvrage qui est en partie dû à Goehrung. Donc, ma perspective, en fait, elle sera ni de m'interroger sur les pratiques relatives à l'immortalité, ni donc c'est pas la recherche de l'immortalité qui m'intéresse, mais c'est l'immortel en tant qu'être constitué dans une société et en essayant de m'interroger sur ses effets sociaux. C'est pas non plus en fait dans le cadre d'une étude religieuse, des études religieuses que je m'inscris, mais c'est plutôt en fait essayer de voir pourquoi en fait cette figure peut servir à constituer un idéal humain. Donc, à la fois dans des pratiques sociales qui sont décrites dans cet ouvrage, et en même temps, en fait, comme peut-être une sorte de figure alternative aux sages de l'Antiquité, en particulier confucéenne. Donc, c'est plutôt dans ce cadre-là que je vais essayer de réfléchir. Tout d'abord, en rappelant en fait que la question de l'immortalité est loin d'être une question que l'on doit ranger dans les superstitions. Hein. C'est une question qui a agité la tradition philosophique très ancienne, sous l'angle de l'immortalité du corps ou de l'immortalité de l'âme. Cette question-là, donc, qui était une question de la philosophie classique et antique, c'est un peu, disons, un tout petit peu, un peu perdu de son poids. Hein. C'est aujourd'hui, on regarde ces textes, ça c'est la condescendance des modernes, hein, donc en essayant de les lire un petit peu autrement, mais comme si en fait cette question de l'immortalité était nulle et non avenue aujourd'hui. Je voudrais simplement dire que très rapidement, hein, et sans entrer dans le détail, que cette question en fait continue en fait d'être une question de la philosophie du XXe siècle en particulier. On la trouve en fait chez des gens comme aussi importants que Bergson, que William James, et puis si on va vers des choses très très récentes, hein, le réalisme spéculatif dont on pense tout ce qu'on veut par ailleurs, de quelqu'un comme Quentin Meillassou, fait de l'immortalité en fait la condition même de la vie humaine. Hein. Donc c'est simplement pour essayer de relancer un petit peu le débat et replacer en fait la réflexion chinoise dans un cadre beaucoup plus large qui me paraît encore important. Hein. En fait, le transhumain n'est qu'un avatar, hein, de cette question de l'immortalité, et comme vous le savez tous, on espère devenir chacun d'entre nous de douces brebis d'Oli qui malheureusement est morte au début de notre millénaire. Donc c'est trêve de généralité, hein, commençons véritablement à parler de l'immortalité et de la manière dont je vais essayer de l'approcher en fait plutôt, donc c'est dans l'autre sens. Donc voilà, j'ai un plan très rapide, hein, je ne sais pas si je le tiendrai, je ne sais pas jusqu'où je pourrais dire exactement ce que je veux dire, mais au fond, je vais passer par quelques points. D'abord, un point méthodologique, en référence à l'Antiquité tardive, ou du moins à certains travaux sur l'Antiquité tardive occidentale, proche orientale et occidentale. Ensuite, un point rapide sur le Shanxian Zhuan en tant que livre, hein, comment il se présente et qu'est-ce qu'on peut y trouver et qu'est-ce qu'on peut en dire de manière générale. Ensuite, plus longuement, m'appesantirai sur l'immortel comme un être social, puis l'immortel comme un être philosophique avec tous les guillemets qu'il faut. L'idée, c'est simplement en fait de voir en fait comment l'immortel peut constituer en fait un horizon en fait l'humanité. Hein? Donc dans le texte qu'est le Shenxianzhuan. Donc le premier point en fait concerne en fait l'antiquité tardive et la figure du saint. En fait, c'est plutôt un point méthodologique puisqu'en fait je voudrais m'inspirer d'un certain nombre de travaux et en particulier des travaux du très grand historien britannique Peter Brown, qui a travaillé assez constamment dans les ouvrages que j'ai donnés ici dans cette diapositive sur la place du saint dans l'Antiquité tardive et le début du Moyen-Âge ou le Haut Moyen-Âge. Hein, et la position qui est la sienne et sera un petit peu la mienne au départ, c'est-à-dire en fait, il se situe, quand il commence ses travaux, il se situe dans une historiographie qui considère globalement que l'Antiquité tardive traduit une sorte de décadence générale, alors de la pensée, de la société, par rapport à l'ordre romain. Et il a dit qu'on assiste à ce moment-là, enfin dans l'historiographie qui est faite à son époque, qu'il y a d'une manière un développement massif des croyances populaires et donc des superstitions et qui viennent d'une certaine façon contrecarrer l'ordre rationnel qui avait été construit pendant toute la période de l'Antiquité romaine. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'il commence à étudier l'Antiquité tardive et qu'il essaie véritablement de redonner un sens qui sorte de cette dichotomie en fait entre un ordre romain rationnel et une période de l'Antiquité tardive qui serait elle soumise à une prolifération de croyances irrationnelles et surtout populaires. Hein. Donc il essaie de remettre un peu d'ordre et de reconsidérer de manière un petit peu plus sérieuse la période de l'Antiquité tardive. Et pour ce faire, il va étudier plus précisément la figure du saint, en essayant de montrer effectivement que cette figure du saint n'est pas du tout le fruit d'un hasard, qu'elle n'est pas non plus seulement l'expression en fait d'un certain nombre de croyances populaires, puisque des élites très vite vont être à même de croire dans cette figure-là. Et il essaie, au moins dans les ouvrages que je mentionne ici, il essaie en fait de caractériser en fait cette figure du saint en lui donnant essentiellement un rôle social. Et le rôle social qu'il donne en fait dans une analyse assez serrée hein, et je n'ai pas le temps ici d'entrer dans tous les détails, mais les deux questions qu'il se pose hein, sont celles-ci. Alors je n'ai pas besoin de les lire en anglais hein, je pense. Donc la question c'est pourquoi en fait le saint joue-t-il un rôle aussi important à partir du 5e, 6e siècle de notre ère. Et la deuxième question, c'est quelle lumière, en fait, jette ces activités sur les valeurs et le fonctionnement de la société qui était préparée à concéder au saint une telle importance. Donc ce sont véritablement les deux questions qui motivent véritablement ces travaux. Et dans les conclusions auxquelles il arrive, en simplifiant hein, très très grossièrement, ce qui est l'abondante littérature qu'il a consacrée à ce thème-là, il fait du saint en fait une figure de médiateur essentiellement entre le pouvoir qui est en perte de vitesse le pouvoir urbain. Et d'autre part, les sociétés en fait paysannes retranché, disséminé sur des territoires assez vastes. Et il montre à quel point, en fait, la figure du saint se construit, en fait, comme un intercesseur au profit, généralement, des communautés paysannes dans des situations très particulières, comme, par exemple, la situation de l'acquisition des terres, la question, en fait, de l'usure et des impôts qui pèsent. Et le saint apparaît comme une figure qui, précisément, en fait, est à même de porter un certain nombre de revendications des sociétés paysannes d'abord, avant ensuite d'intégrer elles-mêmes les villes. Alors il passe par toute une série d'études, hein. Il étudie le rôle que jouent les reliques des saints, la manière dont les processions des reliques des saints sont tout à fait comparables, dit-il, en fait, aux processions des proconsuls de retour de conquête. Il montre aussi comment progressivement le saint va être une figure qui va être assimilée par les élites, d'abord paysannes, puis ensuite urbaines. Il montre aussi comment, en fait, il fonctionne comme un véritable patron, remplaçant, en fait, l'ancien système patron-clientèle de la Rome classique. Hein. Donc, voilà, je m'étends pas davantage sur ce point, mais... Au fond, c'est dans cette perspective-là que j'aimerais travailler un petit peu. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de reporter l'analyse de Peter Brown sur la période de la Chine médiévale, c'est-à-dire, en fait, la période qui va de la chute de la dynastie des Han jusqu'en gros à l'avènement de la dynastie... Enfin, pour moi, jusqu'à l'avènement de la dynastie des Trang, mais on peut la faire durer au-delà. Il ne s'agit pas de plaquer en fait cette analyse, mais en fait de partir en fait d'un état de fait qui semble relativement commun, à savoir avec la chute des Han, la disparition d'un ordre au profit en fait d'une société d'abord complètement éclatée. Territorialement, avec un certain nombre de caractéristiques majeures qui, c'est une période de conflit, une période de guerre, une période de désunion massive, une période aussi dans laquelle on assiste à de très très nombreuses migrations du nord vers le sud, donc dans lesquelles les populations se déplacent considérablement. Et on va le voir, l'immortel, c'est la figure même du déplacement. Hein. C'est l'être qui se déplace par excellence. Bon, ça, juste en aparté. Mais un autre point qui est important, c'est que l'ordre de la dynastie des Han, tant bien que mal consolidé sous la dynastie des Han postérieure, l'ordre confucéen, c'est complètement délité. Hein. C'est complètement délité. Et on peut dire, d'une manière générale, que du point de vue de la pensée, l'élite lettrée se trouve, à partir en gros de la chute de la dynastie des Han, pendant une période qui va être la période des trois royaumes et la période des six dynasties, relativement démunie intellectuellement. Pourquoi ? Eh bien, d'abord parce qu'on peut dire que philosophiquement, les penseurs ont tout essayé et rien n'a marché. Au début de la dynastie des Qin, au début de l'Empire, donc le premier empire, se met en place l'idéologie légiste. Ça dure une vingtaine d'années et ça s'effondre. Au début de la dynastie des Han, une autre idéologie est mise en place, le courant Huanglao, qui est en fait une sorte de légisme naturalisé ou cosmologisé qui... constitue en fait l'idéologie de la cour jusqu'à l'avènement de Wudi, hein, de l'empereur Wudi, qui lui, à partir de Wudi, on assiste là à la mise en place d'un confucianisme d'État. Et ce confucianisme d'État, en fait, bien échoue de manière assez misérable à partir de la seconde moitié du deuxième siècle après Jésus-Christ, avec toute une série de troubles liés en fait à des perceptions d'impôts considérables, liées à des révoltes nombreuses, donc la révolte des turbans jaunes, mais il y avait eu avant la révolte des sourcils rouges, et puis il y a en fait toute une série de mouvements en fait qui sont d'abord des mouvements populaires et qui sont des mouvements populaires et religieux qui viennent mettre à mal l'ordre, disons, confucéen établi par le règne de Wudi et par ses successeurs. Donc on a affaire à un cadre qui, d'une certaine manière, mutatis mutandis, n'est pas si éloigné en fait du cadre de la fin de l'Empire romain, et dans lesquels en fait toute une série de problèmes économiques, de problèmes sociaux, mais aussi de problèmes qui ont recours en fait à la pensée, se posent. Hein. Il y a une forme de à la fois de déclin des anciennes pensées, une nécessité de faire face à de nouvelles réalités sociales. C'est une société dans laquelle la vie est davantage menacée hein, que dans l'ordre précédent, et la pensée et la philosophie doivent aussi en fait se poser un certain nombre de questions nouvelles hein, pour faire face justement à toute une série de problèmes. Et l'idée que j'essaie d'avancer, à titre, vous le verrez, encore très incomplet, hein, l'idée, c'est que la figure de l'immortel est une réponse à la fois philosophique, mais aussi sociale, à toute une série de problèmes qui se posent à partir du IIIe siècle après Jésus-Christ. Bien, donc j'essaie de... Bon, c'est là encore à très grands traits, mais... Pour résumer, je dirais que de même que le saint homme pour Peter Brown est une réponse à une situation sociale nouvelle et un reflet, comme il le dit, de l'inventivité sociale face à la disparition d'un ordre révolu, de même, on peut considérer la figure de l'immortel comme une forme de réponse à toute une série de problèmes sociaux nouveaux posés par la chute de la dynastie des Han, et une réponse novatrice concernant en fait le destin de l'homme. Bon, voilà. Donc je passe à mon point suivant. Le texte qui va me servir en fait de base pour essayer de réfléchir et de construire cette idée-là, c'est le Shanxian Zhuan. Tradition sur les immortels divins. Alors, qui est traditionnellement attribué à Gehong, dont les dates vous sont données dans la diapositive, cet ouvrage est le deuxième des grands ouvrages consacrés aux immortels, aux hagiographies d'immortels, après le Liestian Zhuan, qui lui a été globalement composé dans l'interrègne, je ne sais pas si on doit dire comme ça, Béatrice, mais entre les Han antérieurs et les Han postérieurs, ou plutôt pendant le règne de Wang Mang et de la dynastie des Xin. Donc c'est le deuxième grand ouvrage le précurseur de toute une série d'ouvrages ultérieurs, hein, puisqu'il y aura en fait des suites à la biographie des immortels, ou biographie des immortels divins, ou des traditions sur les immortels divins. Ce que l'on peut dire en fait de cet ouvrage, c'est que globalement, les biographies ou les textes concernant les immortels sont infiniment plus nombreuses. Selon certaines sources anciennes, il y aurait eu près de 165 biographies d'immortels. Aujourd'hui, on en a à peu près dans le texte qui va m'occuper, 90, ce qui est quand même assez important, que ces biographies sont généralement, pas toutes, hein, mais généralement beaucoup plus longues que les biographies que l'on trouve dans le lycée Antoine. Certaines sont même très longues. Alors, il ne s'agit pas à proprement parler de biographie, hein, puisque la biographie concerne la vie et la mort. Donc là, on a affaire à des immortels. Donc, je préfère le terme de tradition, hein, sur ces personnages. Mais donc, on a des textes relativement plus longs. Et puis, on a un classement globalement chronologique des immortels dans 10 rouleaux. Hein, dans 10 rouleaux. En fait, on retrouve dans toutes les éditions qui nous sont parvenues depuis la dynastie des Song, hein, ce classement en 10 rouleaux ou en 10 volumes. Et ces biographies s'étendent en fait de la période très ancienne, de la fin de la dynastie des Shang jusqu'au début de la dynastie des Zhou. Elle remonte même pour le premier des immortels Guangchengzi jusqu'à Huangdi, hein, donc au souverain jaune, et elles vont jusqu'à la dynastie des Jin. Hein. Certains, en fait, sont des quasi-contemporains de Gehong. Hein. Donc, on a un spectre temporel qui est extrêmement large dans ces biographies et dans ce texte-là. Et bon, c'est un point que je note dans un premier temps. Le deuxième point que je voudrais noter, c'est que les biographies, en fait, concernent des personnages dont l'origine clanique se trouve dans tout le territoire chinois. Hein? Vous avez des immortels qui naissent au nord de la Chine, au Hebei. Vous en avez qui naissent au sud de la Chine. Vous en avez beaucoup au Sichuan, à Chengdu, mais vous en trouvez aussi dans le Shandong et puis dans le Jiangnan. Donc, en fait, tout se passe comme si, en fait, cet ouvrage, par le spectre temporel qui est le sien et par le spectre géographique qui est le sien, recomposait une Chine perdue, une Chine historique perdue, un territoire qui est, à l'époque de Gehong, totalement morcelé. Hein, mais là, en fait, on a un territoire qui est unifié par tous ces immortels qui parcourent la Chine en long, en large et plutôt en travers, et un spectre temporel qui couvre en fait l'origine de la civilisation chinoise jusqu'à la période de Gehong. Que dire de plus en fait sur cet ouvrage, sinon que l'attribution à Gehong est toujours plus ou moins sujette à caution. Hein. Néanmoins, donc, comme je l'ai indiqué dans la... Alors, il doit y avoir un pointeur quelque part, oui. Comme je l'ai indiqué ici, en fait, Liang Su, donc un lettré bouddhiste des Trang, rapporte dans un texte qui s'appelle donc « Essai sur les traditions sur les immortels divins », il rapporte que l'ouvrage comportait 190 biographies, que seulement 90 survivent, et que globalement l'attribution à Gehong est attestée. Hein. Donc on la trouve aussi dans le document suivant. C'est attesté par le Pei Songzhi dans certains passages de son commentaire de l'histoire des trois royaumes. Et c'est attesté aussi par Trao Hongjing, le célèbre auteur du Zhengge, hein, les préceptes des immortels, un des maîtres taoïstes du Shangqing et du Lingba. Donc, même si l'attribution définitive à Gehong reste sujette à caution, on peut quand même attribuer les tradition sur les immortels divins, un auteur que j'appellerais Gehong par commodité, mais ce qui m'intéresse en fait, c'est le texte. Donc voilà, c'est le cas pour beaucoup de textes anciens. Hein. Donc il y a un auteur putatif, hein, qui est bien commode pour nommer le texte, mais après on ne sait pas exactement qui est l'auteur de toutes ces biographies. Le texte, en fait, n'existe pas avant, n'existe pas dans le canon taoïste. Hein, donc, ça, c'est un manque assez important. Et la plupart, en fait, des spécialistes se réfèrent à un texte qui s'appelle Longwei Bishu, qui a été réédité ou édité en 1794 et reconstruit presque entièrement à partir des textes du Taiping Guangti. Le Taiping Guangti, c'est la vaste collection en fait de textes de type zhiguai, c'est-à-dire récit sur l'étrange, composé en fait à l'extrême fin du Xe siècle sur ordre du deuxième empereur de la dynastie des Song. Bon, c'est une mine, hein, ce texte-là, ça fait une vie d'immortel ne suffirait pas à lire tous ces textes, hein, tellement les volumes sont importants. Et il y a une autre édition qui est pas totalement satisfaisante non plus, qui est l'édition en fait du Soku Chuenshu. Alors, je me baserai en moi pour lire ces textes, d'une part sur une édition qui est relativement récente, annotée et traduite du Shen Xian Zhuan, qui reprend en fait l'édition du Soku Chuenshu, bien sûr sur le travail le plus important à ce jour sur cet ouvrage, l'ouvrage de Company, donc To Live as Long as Heaven and Earth, Translation and Study of Gehun's Tradition of Divine Transcendence. Bon, Transcendence, c'est la manière dont il traduit Xian, hein, donc immortel. Bon, moi, je resterai à la... Je m'en tiendrai à la traduction traditionnelle par immortel. Campani passe beaucoup de temps et dépense beaucoup d'énergie et d'efforts à assurer, en fait, de... l'authorship de Gehun dans son ouvrage. Pour lui, en fait, il essaie en fait d'assigner à certains textes la figure de Gehun. Ces choses étant dites, on peut peut-être passer au cœur du sujet. Globalement, hein, donc pour résumer ce qu'on trouve dans le livre, on y trouve de nombreux éléments sur la façon dont l'immortalité est considérée dans la Chine médiévale, les relations avec le pouvoir, le gouvernement, le monde et la société en général, la manière dont l'immortalité est recherchée, la manière dont vivent les immortels, leurs capacités, leur interaction avec d'autres vivants ou êtres spirituels, et puis... toutes les techniques qu'ils emploient, hein, les pilules en particulier, la fabrication des pilules, les simples qu'ils préparent, etc. Bon, j'indique tout de suite que je ne vais absolument pas m'intéresser dans cet exposé aux pratiques. Hein. Les pratiques ne m'intéressent pas. Vous deviendrez immortel tout seul, ou en tout cas sans moi. Hein. Donc, voilà. Alors, je passe donc au point qui me paraît d'abord le plus important et que je vais essayer de traiter, l'immortel comme un être social, et je vais essayer d'aborder quatre points. D'abord, l'immortel comme guérisseur, l'immortel comme faiseur de miracles, l'immortel comme pauvre parmi les pauvres, hein, et souvent présenté comme un homme des marchés, hein, qu'on trouve sur les marchés. Et enfin, l'immortel comme le centre d'une communauté, bien que peu d'éléments soient expressément notés sur ce point, l'immortel comme le centre d'une communauté, ou au contraire comme un être craint. Hein, donc, et on verra craint par qui. Hein. Donc ça sera le premier point. La première partie, donc l'immortel comme être social. Alors... Bon, l'immortel, c'est un guérisseur, essentiellement. Dans la plupart des biographies qui nous sont présentées, c'est un être, c'est un guérisseur, mais c'est aussi quelqu'un qui est guéri, hein, dans certains cas. C'est le cas en particulier pour... Le cas de Ma Mingsheng, je vous ai donné le texte chinois, la référence, et la traduction est dans la slide suivante, ou non, elle n'est pas dans la slide, mais Ma Mingsheng, c'est un personnage qu'on peut traduire par le maître du hennissement, qui est guéri d'une blessure alors qu'il poursuit des brigands et qui est promis à la mort. Il rencontre d'abord un homme divin qui le soigne par des simples, et à la suite de cette guérison, il abandonne sa charge. La charge qu'il avait, c'était une charge assez subalterne, mais on verra que c'est relativement important. C'est un agent de police, en fait, hein, dans les provinces. Il abandonne sa charge et, n'ayant pas d'autre moyen de remercier la personne qui l'a sauvé, il le suit et commence donc une sorte de propédeutique d'immortalité. Il deviendra donc immortel après avoir reçu des livres sacrés et être entré dans les montagnes, et mettra en fait une partie de ses pouvoirs au service des communautés qu'il rencontre dans ses différents voyages, et vivra toute sa vie en homme tout à fait ordinaire, inconnu ou en tout cas non reconnu, mais considéré comme un guérisseur. Il élève des animaux et il déménage tous les 3 ans, hein. Donc voilà, il ne se fixe pas, hein. Alors on peut toutefois s'attendre, hein, de cette biographie, qu'il ait partagé un certain nombre de ses recettes avec différentes communautés villageoises. Donc c'est un homme guéri, un guérisseur, en même temps qu'un guérisseur. C'est aussi le cas de Wang Yao, qui est un célèbre médecin des Han de l'Est, alors qui ne pratique, lui, ni l'acupuncture, ni les sacrifices. Il ne dissout pas non plus des talismans dans de l'eau, hein. C'est ce qu'on fait généralement avec les talismans, on les dissout dans l'eau, on les broie et on les dissout dans l'eau, et ensuite on les ingère, et vous pouvez traverser les montagnes sans difficulté après avoir fait cela, si vous n'avez pas eu de haut-le-cœur. Et il a une technique tout à fait particulière pour guérir les possédés ou les malades, pour expulser les démons du corps des malades ou des possédés. Il dispose d'un vêtement de 8 pouces carrés sur le sol, sur lequel de patient doit s'asseoir sans boire ni manger, et quand la personne est possédée par un démon, eh bien il trace sur le sol une prison carrée, force le démon à y entrer, et dans cette prison carrée, la forme du démon apparaît. Donc ça peut être soit un tigre, soit un serpent, soit un renard, soit une tortue. Et lorsqu'il est apparu, Wang Yao le décapite, ce qui permet, dit le texte, une convalescence très rapide aux possédés. Bon, c'est un exemple parmi d'autres du pouvoir de guérison de ces immortels, donc de quelqu'un qui, effectivement, sans être à proprement parler, en fait, pour le cas de Wang Yao, un médecin utilisant des techniques avérées, dispose en fait d'un art particulier qui lui permet en fait de guérir toute une série de maladies, et en particulier des possessions. Juste un point sur lequel je n'ai pas évoqué, mais sur lequel il me paraît important de revenir, c'est le fait que si l'immortel est un guérisseur, c'est qu'il remplit un rôle dans une situation et dans une époque où se multiplient les épidémies. Hein. Épidémies de toutes sortes. Hein. Donc, vous trouvez de l'anthrax, vous trouvez de la peste, vous trouvez toute une série de maladies. Et si les choses vous intéressent, vous avez un excellent petit ouvrage de Lin Fushi consacré à précisément en fait aux médecins donc de taoïstes de la Chine ancienne, et il dénombre dans son ouvrage entre 220 après Jésus-Christ et 416 de notre ère, plus de 22 épidémies Dai hein, en chinois, dont certaines s'étendent sur plusieurs années. Hein. Donc certaines peuvent durer 3 ans. Généralement, en fait, les épidémies durent 1 an et sur tout le territoire chinois de l'époque. Hein. Donc c'est vraiment en fait un point important de guérir les épidémies qui touchent non seulement les communautés villageoises, mais qui touchent de la même façon l'élite, hein, l'élite chinoise. Il y a précisément il y a d'autres exemples, hein, on pourrait nommer des immortels comme Shen Tian, par exemple, ou comme Sun Po. Il y a le cas de Liu Gen, qui vit au temps de Wang Mang, et qui est un guérisseur, précisément, par temps d'épidémie. Alors, je vous lis juste très brièvement le texte que j'ai traduit. Donc, vous avez le texte chinois et la traduction. Après le précédent gouverneur de Yingchuan, le commandant Gao vint prendre le même poste que Heng. Des gens du canton souffraient d'une grande épidémie, au point que plus de la moitié de la population était morte. Tous les membres de la famille de Gao tombèrent aussi malades, si bien que Gao envoya un émissaire, nommé Wang Zhen, auprès de Liu Gen, une nouvelle fois, lui demandant de déployer son art d'expulser et d'éliminer les souffles miasmatiques. Wang Zhen, donc l'émissaire, se jeta face contre terre pour relayer les paroles du préfet. Liu Gen l'instruisit et lui dit de rapporter le problème au souffle d'en haut du palais de l'étoile de la Grande Année. L'étoile de la Grande Année, c'est 12 ans. Hein, les 12 ans hein. Et de creuser un trou dans la terre d'une profondeur de 3 pieds, de le recouvrir de sable et de le fertiliser d'alcool. Le préfet agit selon ses paroles. Tous les malades furent guéris, donc tous les malades de sa famille d'abord, puis les autres ensuite furent guéris, et l'épidémie, en peu de temps après, cessa. Par la suite, chaque fois que cette méthode fut utilisée, elle se montra efficace. Donc l'immortel, c'est bien quelqu'un à qui on fait appel pour résoudre en fait des cas assez importants d'épidémie. Je m'arrête là pour l'instant. En fait, on peut garder donc cette idée que c'est un guérisseur. C'est par ailleurs, deuxième point, un faiseur de miracles. Un des aspects caractéristiques, hein, de certains immortels est précisément leur capacité de faire des miracles ou d'utiliser leur pouvoir de manière soit à prouver qu'ils sont immortels, donc c'est une manière en fait de s'authentifier comme immortel que de faire un miracle, soit pour sauver une communauté. Une communauté, oui. Alors certes, toutes les traditions concernant les immortels ne mentionnent pas en fait ces pouvoirs, mais on peut repérer dans le Shanxian Zhuan plusieurs récits importants. C'est le cas de Luanba, un homme de Chengdu qui devient fonctionnaire de l'administration après avoir produit un miracle pour le préfet de Bali. Je lis le texte. J'ai appris que vous, l'homme que j'ai chargé de former des équipes de travail, possédez la voix. Hein, c'est le préfet qui parle à Luanba. Pourriez-vous me montrer quelque chose d'extraordinaire ? L'immortel répond oui. Alors, assis calmement, il entra dans un mur et alla. Indistinct et flou, il prit la forme d'un nuage et d'une vapeur. Peu de temps après, on perdit la trace de pas. Des gens à l'extérieur du mur virent que quelque chose s'était transformé en tigre. Surpris, ils pensèrent que le tigre avait remplacé Luanba, qui avait disparu. Mais lorsqu'ils s'approchèrent du tigre, ils s'aperçurent que c'était Luanba. Donc voilà, petit miracle de Luamba qui se transforme en tigre et qui se fait reconnaître comme tel, comme immortel, par ce petit miracle. Hein. Et ça lui permettra par ailleurs de progresser dans la hiérarchie du préfectorat local de Bali. Hein. Donc, bon, on reviendra sur un point, mais... sur un point qui est qu'on a ici une transformation en animal, hein, et puis par ailleurs c'est un passe-muraille, hein, donc beaucoup de ces immortels sont des passe-murailles, hein, donc, et ça je reprendrai ce thème là mais peut-être je le dis dès maintenant, c'est un homme qui franchit les obstacles ou pour lesquels plutôt l'immortel, un homme pour lequel il n'y a plus d'obstacles, hein, et c'est aussi un des aspects de cette figure philosophique ou de ce qu'on pourrait appeler avec une expression un peu galvaudée aujourd'hui, empruntée à Deleuze, personnage conceptuel. Hein. C'est un être qui ne rencontre aucun obstacle concret, hein, physique. Hein. C'est le sage confucéen, ancien, ne rencontre lui non plus pas d'obstacle dans la vie ordinaire. Hein, il concerne toutes les situations, il passe à travers toutes les situations. L'immortel a ceci de plus que non seulement il passe à travers toutes les situations, mais il passe même à travers les murailles. Hein. Donc c'est mieux, hein, quand même. C'est un petit peu mieux. Bon. L'autre figure importante pour concernant en fait ces faiseurs de miracles, c'est la figure du seigneur Mao Ying, qui est l'une des figures centrales du mouvement de la pureté céleste. Hein. Le mouvement de la pureté céleste est quasi contemporain, hein, de Gerhong, hein, un tout petit peu avant Gerhong, donc juste après, en fait, la première moitié du IIIe siècle après Jésus-Christ. Mouvement donc qui traduit en fait la pénétration en fait du taoïsme dans les élites lettrées, et un mouvement qui s'intéresse plus particulièrement aux techniques de méditation par la visualisation. Hein. Donc pour aller là encore très vite, et Mao Ying, donc, qui est l'un des fondateurs putatifs de ce mouvement, l'un de ceux qui a transmis les textes, les écrits célestes, de ce Mao Ying, on vous dit ceci. Le frère cadet du seigneur Mao fut choisi comme eunuque du palais et avait atteint le rang de 2000 boisseaux. Donc il recevait un salaire, en fait, relatif à sa charge, un salaire de 2000 boisseaux. Quand il dut prendre sa charge, plusieurs centaines de personnes vinrent de leur village natal lui faire leurs adieux. Le seigneur Mao était aussi assis parmi eux et dit: bien que je n'ai pas atteint le rang de 2000 che, hein, donc une mesure de volume assez importante, je dois cependant occuper une charge parmi les esprits et les dieux. Tel jour de tel mois, je partirai pour remplir ma charge. Donc, Mao Ying, donc, lui, va être enrôlé dans la bureaucratie céleste. Hein, et dans cette bureaucratie, il prévient donc la communauté qui l'entoure de son futur départ. Et la communauté lui disent, ou les autres lui disent, nous souhaitons vous rendre hommage et vous faire nos adieux. Mao Ying répond: je suis touché par votre désir de m'accompagner et apprécie grandement votre intention, mais venez les mains vides, ne faites aucune dépense, j'aurai les moyens d'organiser une fête pour vous. Hein? Le jour venu, les hôtes arrivèrent et l'on fit un grand banquet. Des auvents de brocart bleu furent déployés et des couches de feutre blanc étalées en dessous. Des mets rares et des fruits étranges furent empilés et disposés. Des danseuses assuraient la musique. Les sons du métal et de la pierre se mêlaient et le vacarme faisait trembler le ciel et la terre. On pouvait l'entendre à plusieurs lits de distance. Sur plus d'un millier d'invités présents ce jour-là, aucun ne manqua de repartir ivre et repu. Hein, donc c'est en fait le miracle de la manne, hein, donc qu'on trouve ici, mais qui traduit en fait le lien extrêmement fort entre l'immortel ici et une communauté, et la communauté villageoise dans laquelle il est inséré avant son départ définitif pour d'autres cieux bien meilleurs. Alors, un autre exemple significatif, hein, donc, c'est Caoudig, ou appelé aussi Changxianggong, et je l'ai encore. Que vous dire ? Bon, on peut passer peut-être. Hein. Donc, si cet immortel, il est intéressant parce que. Alors, il fait des miracles d'un type un peu particulier, lui, parce qu'en fait, il prévoit l'avenir. En fait, j'aime pas tellement cette expression, puisqu'en fait, pour l'immortel, il y a une abolition, on le verra, un peu du temps. Hein. Donc, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'avenir, tout est donné en même temps, en quelque sorte. Hein. Mais. Lors d'une rencontre où il est amené en fait à prévoir un incendie dans une région assez éloignée de l'endroit où il se trouve, et au cours en fait du banquet auquel il assiste, à un moment il prend une coupe d'alcool et cette coupe d'alcool va se trouver suspendue dans le ciel, et il va quand même la saisir, la boire, et puis au lieu d'ingurgiter le breuvage, l'alcool en question, en fait, il va recracher cet alcool. Et toute l'assistance, en fait, se met à rire en disant cet homme est, ou cet animal, hein, est véritablement complètement fou, mais. Cet immortel, donc Changxianggong, dit en fait « Je viens d'éteindre un feu à des milliers de lits d'ici. » Et il y a un émissaire, à des centaines de lits d'ici. Et il y a un émissaire qui est envoyé pour constater qu'effectivement, un feu avait pris et a été éteint assez rapidement, et que les fumerolles dégageaient une odeur d'alcool. Hein? Donc l'émissaire retourne auprès de Changxianggong, et on reconnaît là en fait son pouvoir en tant que qu'immortel, son identité en tant qu'immortel. Et ce qui est intéressant ici, c'est l'effet à distance, hein, que l'on trouve impliqué dans cette anecdote, hein. C'est quelqu'un pour qui effectivement les distances n'ont plus lieu d'être, de même que le temps, on le verra, n'existe plus véritablement. Alors, on pourrait aussi évoquer les petits miracles de Yingkwe, hein, qui prévient l'hôte qui l'accueille pour une nuit d'un désastre militaire à venir, lui donne une pilule protectrice, le prévient aussi d'une épidémie dont il donne le remède, il repousse des tigres en plantant des colonnes de bois dans le sol pour son disciple, tue un oiseau maléfique en disposant un talisman, transforme du plomb en argent pour un fils pauvre et néanmoins filial, afin qu'il puisse acheter un cercueil pour son père défunt, et sauve une personne endettée. Donc voilà en gros les missions en fait que s'assigne le personnage de Yingkwe dans des rapports relativement, pour le coup, interpersonnels, et pas simplement avec la communauté tout entière, mais on voit bien en fait que il joue d'une certaine façon le rôle de bienfaiteur et il répond à un problème important à l'époque, ce sont les pratiques usuraires, hein, en sauvant la personne endettée ici ou en remédiant à une pauvreté de plus en plus massive pendant la période. Hein. Donc on pourrait multiplier en fait les textes, hein, sur les immortels faiseurs de miracles. Je passe au troisième point qui me semble important, c'est l'immortel est souvent décrit comme un pauvre parmi les pauvres, hein. Donc il y a un certain nombre d'exemples qui sont donnés. On le trouve d'abord en fait sur les marchés, hein. Alors c'est un point que je n'ai pas évoqué, en fait, mais qui, pour moi, est important, c'est qu'il n'y a pas, à mon sens, de différence à faire entre l'immortel réalisé, celui qui a atteint véritablement la voie, et l'immortel qui est en chemin vers la voie. Hein. Fabrizio Pregradio l'a dit la semaine dernière, hein, vous êtes immortel parce que vous êtes prédestiné à l'immortalité. En fait, entre un immortel virtuel, celui qui étudie la voie, et un immortel réalisé, celui qui est capable de tous ces petits miracles, en fait, c'est la même chose. Hein. C'est entre le virtuel et l'actuel, il n'y a pas de différence. Donc, qu'il soit sur les marchés en train d'étudier la voie ou pas, ou qu'il soit déjà immortel, peu importe, hein, à mon sens. Alors, donc, on a le cas de Li Zhongfu, qui fait commerce de pinceaux au pays de Chou et qui distribue sa recette aux pauvres qui l'entourent. On a Yingqing qui fabrique du charbon de bois. On a le fondateur des Maîtres Célestes, hein, donc le mouvement qui naît à la fin de, dans la seconde moitié du deuxième siècle après Jésus-Christ, hein, créé par, enfin, en tout cas, dont le créateur est censément Zhang Daoling ou Zhang Ling, et qui va fonder en fait ce premier mouvement taoïste, le mouvement des maîtres célestes, qui organise en fait la communauté en véritable église, hein, donc, puisqu'il y a des prêtres, mais il y a aussi des paroissiens et des membres dans différents membres de la paroisse, occupant en fait des rôles et des fonctions précises dans l'église, et qui est caractérisé par cette secte est caractérisée par des pratiques rituelles extrêmement nombreuses qui intègrent bien sûr des pratiques d'exorcisme, mais qui intègrent aussi toute une partie de la morale confucéenne, hein, traditionnelle en tout cas. Donc le fondateur des Maîtres Célestes, lui aussi est issu d'une famille très pauvre, hein, et le mouvement qu'il lance est d'abord un mouvement insurrectionnel qui ne va pas subir en fait le sort des turbans jaunes parce qu'il va prêter allégeance d'une certaine façon à Tsar. Hein. Tsar le reconnaît en fait comme un pouvoir religieux. Hein. Ce fondateur, donc Zhang Daoling, donc issu d'une famille pauvre, est décrit dans la biographie qui lui est consacrée comme un véritable administrateur. Hein. Donc c'est quelqu'un qui organise un territoire religieusement d'abord, mais qui pourvoit aux besoins de la communauté qu'il administre au pays de Chou d'abord, communauté qui va s'étendre en fait au nord de la Chine. Vous trouvez aussi Sundong, qui est un marchand sur les marchés, qui distribue lui aussi ses gains aux pauvres, que personne ne voit manger et que les gens pensent fous. Hein. Là encore, hein, le fou, hein, c'est un qualificatif qui est longuement attribué à ces personnages avant qu'ils soient reconnus comme immortels. Hein. Il y en a un que je trouve particulièrement intéressant parce que c'est le personnage Sunbo que j'ai déjà mentionné, qui est alors lui c'est un battleur, hein, de foire, hein, c'est un cracheur de feu, c'est un battleur sur la place publique, c'est un prestidigitateur, un magicien, il est capable lui aussi d'entrer dans les pierres et dans les falaises, hein, donc là encore un véritable passe-muraille qui est capable de courber les épées pour en faire des miroirs et qui avale couteaux et épées, hein, comme on en voit dans les fêtes foraines. Hein. Donc c'est un homme qui, au fond, se situe au niveau le plus bas de la société, hein, ou qui du moins peut se situer au niveau de la volontairement au niveau le plus bas de la société. Hein. Pensez à ce que disait Lao Tzu, hein, donc Shang de Bouddha, hein, la grande vertu n'est pas vertueuse, et l'image qui est associée à la vertu, c'est l'image de l'eau, parce que l'eau se tient toujours en bas. Hein. Donc c'est aussi cet aspect-là qui est à prendre en considération dans la volonté en fait de déhiérarchiser sa position, hein, dans le monde. On pourrait multiplier les exemples, mais le temps passe et je voudrais quand même un peu avancer. Alors, Bon, je vais aller un peu plus rapidement, j'espère, en fait, peut-être en ne lisant pas tous les textes, mais le quatrième point que je voulais aborder dans cette, l'immortel comme être social, c'est le centre d'une communauté ou l'être, un être craint. Hein. Donc, dans la tradition taoïste chinoise, ce qui caractérise un immortel, c'est d'abord et avant tout le culte qu'on lui rend et le temple qu'on lui érige. Hein. Mais ce n'est pas pour autant, en fait, le point le plus saillant dans les biographies des immortels divins. C'est mentionné pour certains immortels qu'on leur rend un culte après leur ascension au ciel, mais ce n'est pas un point qui est systématiquement noté hein, de la part de Gehron. Ces immortels parfois ne laissent aucune trace. Hein. Donc, et en tout cas, pas de culte ne leur est rendu immédiatement. On peut relever quand même cet aspect pour Dongling Shengmu, hein, la sainte mère de Dongling, auquel un culte est rendu qui ne cesse pas après sa disparition, comme le note lui-même Gehron. Mais ce n'est pas le point le plus important. Le point le plus important, c'est peut-être le fait que... alors là, je passe hein, sur Sun Deng. Le point qui me paraît... Alors, j'ai un texte très long qui est illisible, mais je vais essayer de le résumer. Le point le plus important pour moi, en fait, c'est que c'est un personnage qui est craint des puissants. Hein. Il y a de nombreux, hein, de nombreuses biographies ou hagiographies qui évoquent, en fait, la menace que semble faire peser l'immortel sur des pouvoirs en grande partie usurpateurs. Hein. En grande partie usurpateur. Alors, le cas le plus remarquable en ce sens, mais on en a d'autres, c'est le texte que je vous ai donné ici, que j'ai traduit dans la. Qui est très long, hein, dans la slide. Il y a je ne sais plus où j'en suis. Voilà. Non, il faut que je remonte. Je me suis perdu. Donc c'est un texte qui concerne un immortel qui s'appelle Zuozi et qui fait l'objet d'une très longue, hein, comme vous le voyez, même si c'est illisible à géographie dans le texte. Bon, j'ai traduit le texte, mais il sera aussi illisible. Et pourtant, je l'ai coupé en deux. De quoi parle ce texte, en fait? Elle met en scène ce personnage face, et c'est assez remarquable, aux trois souverains des trois royaumes. Donc Cao Cao, Liu Bei et Sun Wu. Cet immortel, Zuozi, va d'abord en fait rencontrer Cao Cao et Cao Cao ne va avoir de cesse de vouloir l'éliminer. Alors il y a toute une série de. Je passe les détails, mais il y a toute une série de stratégies qui sont mises en place pour. D'abord éloigner Zuozi, et puis Zuozi revient, hein, donc toujours, pour le mettre à mort. Donc on lui envoie des poursuivants, et Zuozi se retourne toujours au bon moment hein, pour savoir qu'il y a un couteau qui va lui être planté dans le dos. Donc Cao Cao, en fait, est décrit de manière assez remarquable hein, comme un véritable tyran, en fait, hein, qui veut se débarrasser d'un être dont il sent en fait la menace hein, très très forte. Mais c'est le cas aussi pour le souverain du pays de Shu et pour le souverain du pays de Wu. Et eux-mêmes ressentent la même menace. Ils sont néanmoins un peu moins constants dans le meurtre que Cao Cao et finissent par reconnaître, après l'avoir quand même emprisonné, Zuozi comme un immortel et le laisser vaquer à ses occupations. Mais on voit bien en fait dans ce texte-là qu'il y a une figure et trois souverains qui sont d'une certaine façon perçus comme des usurpateurs, en fait, de faux souverains, hein, qui essaient par tous les moyens possibles d'assurer leur pouvoir et qui rencontrent par malchance un être dont le pouvoir est infiniment supérieur au leur. Capable effectivement, là encore pour Zuozi, et c'est dit dans cette biographie, de procurer aux populations qui sont dans son entourage le bien-être que Cao Cao, Liu Biao ou Sun Ce ne peuvent absolument pas procurer. Bien, bon, moi, je ne vais pas m'étendre plus longtemps là-dessus. Donc voilà, ce sont à mon sens les quatre points en fait qui montrent quels peuvent être le rôle social et surtout quelle peut être en fait l'image sociale que peut avoir la figure de l'immortel à cette époque-là. Alors le dernier point, et j'espère pouvoir aller plus rapidement, c'est l'immortel comme un être philosophique avec les guillemets qu'il faut et un point d'interrogation. Alors, l'immortel, hein, dans les exemples que j'ai donnés, il apparaît comme un être exemplaire. Et s'il apparaît ainsi, c'est parce qu'il propose en fait une sorte de modèle de vie sociale en temps de guerre, de violence ou de domination. C'est en quelque sorte un contre-modèle, un homme méprisant les richesses, les honneurs, se contentant d'une vie simple, souvent non reconnue, ne cherchant pas à être reconnu, peu soucieux de rétribution quand il exerce son pouvoir, et c'est un homme qui parcourt tous les espaces possibles. Alors, je voudrais, dans cette partie-là, m'interroger en fait sur la construction en fait de cette figure comme une figure un peu alternative à la figure du sage. Alors, à tout seigneur, tout honneur, hein, donc il y a quand même un texte qu'il faut... Un texte qui a été mentionné la semaine dernière et qui constitue un pendant à ce que je vais dire, hein, c'est le texte qui est de Lai Chi Tim, Gehong's Discourse on Xian Immortality, A Taoist Configuration of an Alternate Ideal Self-Identity. Hein, donc c'est un petit peu dans ce cadre-là que je me situe, même si je vais dire des choses un petit peu différentes, puisqu'au fond, en fait, Lai Chi Tim essaie de parvenir à la conclusion qu'au fond, l'immortel restait un sage, au fond. Alors que pour moi, en fait, l'immortel est une autre figure que le sage. Donc, l'article de Lai Chi Tim, il s'agissait en fait de montrer que la figure de l'immortel intervenait dans la continuité de la figure idéale du sage confucéen. Moi, il me semble qu'on peut aller un petit peu plus loin que ça et dire en fait que c'est une figure qui a pour objectif de remplacer véritablement la figure du sage confucéen. Alors, j'aborderai ce point en fait sous trois angles, en essayant d'être plus bref possible et en lisant peut-être moins de textes et en me perdant moins dans les détails peut-être. Le premier point, ce sera une nouvelle identité. Le deuxième point, ce sera le rapport au pouvoir. Le troisième point, le rapport entre le sage et l'immortel terrestre, précisément pour essayer de les différencier tous les deux. Alors, ce qu'on peut dire, en fait, on peut aborder le premier point, le point sur la nouvelle identité, de plusieurs manières. Mais la première chose, en fait, c'est que on a affaire à des biographies. Hein, et le propre d'une biographie, c'est de mentionner systématiquement le nom, le prénom et l'origine du clan. Donc en fait, la biographie, c'est d'abord et avant tout une assignation de nom et à un lieu. Donc la biographie enracine en fait dans un nom et un lieu. Et bien, ce que fait Gehong, c'est reprendre ces éléments, il donne les noms, il donne l'origine et il disloque en fait les assignations ensuite, puisqu'il montre en fait précisément que cet être est à la fois sans lieu, mais le plus souvent, il va le dire aussi, sans famille. Hein, donc il y a un rapport à la famille qui est très très particulier en fait. Hein. Bon, globalement, la plupart des immortels sont des êtres solitaires, mais il arrive qu'ils aient une famille. Et certains, comme Wang Yang, que j'ai déjà mentionné, est marié, mais n'a pas d'enfant. Hein, ce qui, d'une certaine façon, est un scandale dans la tradition chinoise, qui annonce à la fin de sa biographie à son disciple préféré, Tian, et à son épouse qui s'absente pour quelques jours alors qu'il ne reviendra jamais. Hein. Donc voilà, c'est un être qui, même lorsqu'il est marié ou lorsqu'il est inscrit dans une famille, est sans attache d'une certaine façon, ou du moins ne considère pas que les liens familiaux soient une forme d'attache suffisante pour le retenir. La plupart de ces immortels ont des disciples sans constituer pour autant des lignages. Et c'est ça qui est important aussi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer que ceux qui se réclament de ces immortels, ou qui les ont fréquentés, vont constituer à proprement parler, au moins dans le Shanxianzhuan, une véritable famille de pensée, et donc des héritiers directs. Hein. Donc ils sont, d'une certaine façon, des sans lignage à part entière. La plupart de ces immortels, étant pauvres, ils n'appartiennent à aucun lignage reconnaissable et sont dénués d'une quelconque assignation par le nom. Hein. D'autre part, ces immortels cultivent la préservation de la vie, hein, la recherche d'abord et avant tout la longue vie, la longévité, et la longévité est expressément décrite dans plusieurs textes du Shanxianzhuan comme le paroxysme de la piété filiale. Hein. Donc, en quoi l'immortel reste-t-il filial ? Eh bien, tout simplement en disparaissant. Ce qui est quand même assez paradoxal. Certains, quand même, puisque l'ouvrage ne se veut pas systématique et que l'immortel, on peut configurer certains de ses aspects, mais qu'on ne peut pas en faire une figure figée, certains de ces immortels ont une différence, une descendance considérable, hein, comme Wu Yan, qui a plus de 36 enfants. Mais on peut dire qu'avec un nombre pareil, c'est ne plus avoir de famille que d'avoir 36 enfants. Le rapport, il y a un point aussi qui est important aussi, c'est que certains sont mariés, certains couples peuvent poursuivre tous deux la recherche de l'immortalité. Et il y a un cas précis d'un couple dans lequel, en fait, c'est la femme qui atteint, c'est la Sainte Mère de Dongling, hein, qui atteint l'immortalité avant son mari, le mari étant jaloux, essaie de la trucider. Et évidemment, étant face à une immortelle, c'est impossible. Mais donc il y a une petite fâcherie familiale. Il porte plainte, le mari porte plainte contre sa femme, la fait emprisonner, et elle échappe en réalité à la fois à la prison et au mariage en s'enfolant par la fenêtre de sa cellule. Hein. La tradition taoïste est la seule tradition chinoise, hein, qui mette sur le même plan les immortels mâles et les immortels femelles, si je peux m'exprimer ainsi. Hein. Donc, il y a une égalité, en fait, de rang, de statut et de rôle et de fonction pour les hommes et les femmes. Hein. Et c'est un point important. Hein, donc, et ces récits, en fait, il y a un certain nombre, il doit y avoir un peu moins d'une dizaine de biographies consacrées aux femmes dans les immortels divins. Biographie des immortels divins, mais il apparaît clairement que ces images de figures féminines sont une réponse à l'enfermement du féminin à cette époque-là. Hein. Donc, c'est un moyen pour les femmes d'échapper à leurs conditions. Hein. D'ailleurs, on retrouvera ça sous les Trang. Hein. Donc, un certain nombre de femmes de cour sous la dynastie des Trang embrassent la religion taoïste et entrent dans des monastères nouveaux, d'ailleurs, taoïstes, à l'époque, pour précisément échapper, en fait, à leurs conditions féminines. Hein. Un autre point important qui va dans le sens, en fait, de la nouvelle identité, c'est le changement de nom. De très nombreux immortels, lorsqu'ils accèdent véritablement à l'immortalité, cette immortalité étant prouvée par un certain nombre de pouvoirs, bien changent de nom. Donc, ils quittent leur assignation d'origine pour prendre un nouveau nom. C'est le cas, par exemple, de Huang Chuping, qui devient le célèbre immortel maître pain rouge, Che Songzi. Mais c'est aussi le cas de son frère, Chu Qi, qui devient, lui, maître Che Su. Tous deux, d'ailleurs, sont des immortels assez connus, puisqu'ils sont déjà mentionnés dans le Shanxianzhuan, dans le Zhangguoci, d'un côté, et puis dans le Lixianzhuan. Troisième élément, en fait, qui traduit peut-être cette nouvelle identité, c'est que l'immortel, c'est un être essentiellement en voyage. J'ai déjà mentionné, en fait, que des immortels, vous en trouvez sur tout le territoire chinois, mais du nord au sud, jusqu'à Luofushan, où se retirera Ge Hong à la fin de sa vie. Et c'est quelqu'un qui est capable de parcourir des centaines de lis en une journée. Donc quelqu'un qui est extrêmement véloce, et sa capacité de déplacement est quasiment sans limite. On le verra dans le dernier texte, si j'ai le temps de le lire avec vous. Donc c'est un être qui non seulement se déplace, mais se déplace très vite. Et de cette manière-là, il est inattrapable ou inarrêtable. Donc en fait, sur beaucoup de points, on peut dire qu'en fait, les différentes évocations qui sont faites de l'immortel chez Ge Hong induisent une sorte de dissolution de l'identité sociale, en tout cas, dissolution quasi complète de l'identité sociale. On l'a vu, certains peuvent se transformer en animal, en mouton pour Zhuozi, en tigre pour Luanba, en d'autres en oiseau. Ce qui importe ici, ce sont les tentatives diverses et variées qui manifestent les immortels pour échapper à une quelconque assignation. Assignation par la forme, assignation par le lieu, assignation par le lieu, le nom. Alors, deuxième point sur lequel je vais être plus rapide, je pense, c'est le rapport au pouvoir. Dans les immortels divins de Ge Hong, donc, il y a de très nombreux cas où l'immortel rencontre un souverain. Alors ça peut être Wu Di De Han, c'est très souvent le cas. Il y a plusieurs récits qui mettent en scène l'empereur Wu Di De Han et des immortels. Ça peut être le cas de Wendi de Han. Ça peut être les différents potentats de des trois royaumes, mais aussi en fait les empereurs de la dynastie des Jin, sous le règne de Ge Hong. Et alors, il y a un texte qui est particulièrement remarquable, c'est le texte relatif à He Shanggong, donc He Shanggong, c'est l'un des commentateurs, un des premiers commentateurs sous les Han du Laozi. Et le souverain Wendi sous les Han rencontre He Shanggong et lui dit clairement, donc moi je suis un empereur et vous n'êtes qu'un sujet, donc vous me devez obéissance et allégeance. Et il lui dit clairement, l'empereur, bien que vous possédiez la voix, vous êtes toujours l'un de mes gens et vous ne pouvez pas subsister de manière indépendante. Pourquoi alors agissez-vous si hautement ? À cela, le seigneur He Shanggong frappa des mains, s'assit, puis se levait directement dans les airs jusqu'à ce qu'il soit à plusieurs dizaines de pieds au-dessus du sol. Regardant vers le bas, il répondit « En haut, je n'atteins pas les ciels. Entre les deux, je n'emmène pas d'autres personnes. » En bas, je n'habite pas la terre. Comment puis-je être considéré comme l'un de vos sujets ? Donc, l'immortel, c'est quelqu'un qui est rétif, de manière générale, à tout pouvoir, quel qu'il soit. Donc, c'est le cas particulièrement pour les pouvoirs souverains, impériaux ou les potentats, mais c'est le cas aussi lorsqu'ils exercent des charges. On peut On peut mentionner le cas de Rougon, maître Calbas, qui lui a été chassé quand même du Panthéon céleste en tant qu'immortel, hein, parce qu'il n'était pas assez diligent à sa tâche. Hein. Donc on l'a exilé sur la terre pour cette raison-là, mais c'est le cas aussi pour certains immortels qui remplissent de petites fonctions subalternes comme agent de police ou licteur dans telle ou telle communauté et qui luttent en particulier contre leurs supérieurs pour, généralement dans ce cas-là, au profit de la communauté tout entière. Hein. Donc l'immortalité est un moyen, de manière générale, pour échapper à l'enrôlement dans la fonction publique et au service de l'État. C'est de ce point de vue que, d'ailleurs, Goron privilégie la bureaucratie terrestre, les immortels terrestres, plutôt que les immortels célestes, qui sont, eux, toujours enrôlés dans une forme de bureaucratie. Alors, peut-être, je passe rapidement, le dernier point, ce sera le point sur l'immortel terrestre et ce qu'on peut en attendre. Et là, j'évoquerai en fait un point qui me paraît important, qui est, c'est le rapport en fait au savoir de l'immortel. Dans les traditions hagiographiques sur les immortels divins, de très nombreux immortels sont qualifiés d'illettrés. Donc, en fait, le savoir, pour eux, n'existe pas ou n'importe pas. Ce qui importe pour eux, dans ce cas-là, c'est l'expérience. La rencontre avec un autre personnage divin. Donc, c'est un savoir d'expérience qui est privilégié plutôt qu'un savoir livresque. Mais, dans d'autres cas tout aussi nombreux, il est mentionné que ces immortels connaissent les saints classiques, les apprécient, y voient des méthodes pour parvenir à l'immortalité, et certains, en tout cas l'un d'entre eux, est d'abord un étudiant à l'Académie impériale. Donc, ce qu'on peut déduire en fait de ceci, c'est que le savoir importe peu, d'une manière générale. Il peut être mentionné, comme il peut ne pas l'être, mais en tout cas, ce n'est pas un critère véritablement qui fera d'un immortel un plus grand immortel qu'un autre, d'un immortel savant un plus grand immortel qu'un immortel illettré. Hein? Donc ça, c'est un point important, c'est-à-dire, en fait, c'est une façon aussi de dire que, d'une certaine manière, n'importe qui, lettré ou illettré, peut accéder à l'immortalité, pour autant hein, que l'on soit prédestiné à l'immortalité. Hein. Mais le savoir n'est pas important. Donc il y a une forme d'accès à une autre humanité qui ne passe pas par l'étude des textes en particulier, hein, mais qui passe par essentiellement un savoir d'expérience. Hein. J'insiste là-dessus parce qu'en fait, tous les immortels n'étudient pas la voie de l'immortalité. Hein. Il y a de très nombreux immortels qui ne sont absolument pas intéressés par la recherche de l'immortalité. Hein. C'est mentionné expressément dans les textes. Hein. Donc, pour certains immortels, on vous dit, ils ne recherchaient pas la voie de l'immortalité. Hein. Donc, ce n'est pas quelque chose que l'on acquérerait par une forme d'étude, d'une manière ou d'une autre. Hein. Ou du moins, ce n'est pas un élément, discriminant. Pour parvenir à l'immortalité. Alors, le deuxième point sur lequel je voudrais évoquer dans cette évocation de la description de l'immortel terrestre, c'est le rapport au temps. Hein, le rapport au temps, c'est évidemment un rapport très très important, mais là je dirais des choses vraiment très simples et banales, et il faudrait vraiment consacrer une étude tout entière à cela. La plupart de ces immortels sont décrits comme des êtres sans âge, ou plutôt des êtres qui ne sont plus soumis au vieillissement, et qui sont d'une immortelle jeunesse. Hein. Certains, un immortel en particulier, je crois que c'est Inque, commence l'étude à 79 ans, donc très vieux, hein, l'étude de l'immortalité à 79 ans. Un jour, ça lui prend, hein, il commence, il s'y met. Et il rajeunit pour devenir un homme dans la trentaine. Hein. Donc, en fait, ce qui caractérise en fait l'immortel, et les descriptions sont toutes unanimes là-dessus, c'est qu'ils sont, en fait, ils jouissent d'une jeunesse éternelle. Hein. Donc, leur apparence, c'est une apparence de jeunesse éternelle et donc de beauté. Et c'est, en tout cas, expressément dit pour les immortels LES. Hein. Elles sont belles. Elles sont magnifiques. Donc, l'autre point que je voudrais indiquer, c'est que, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais en fait, pour l'immortel, en fait, il n'y a plus ni présent, ni passé, ni avenir. Hein. Ils vivent dans un temps... Enfin, je ne sais pas dans quoi ils vivent, hein, mais ils vivent sans linéarité temporelle. Hein. Et c'est exemplifié dans, dans l'ouvrage par une technique qui est la technique du Duntia, bon, qui est une technique extrêmement complexe. Donc, il s'agit en fait de la branche Celestia cachée et qui traduit en fait une faille dans le temps. C'est en fait une sorte de trou dans le temps. Alors c'est assez compliqué, hein, c'est une technique par ailleurs que certains ont essayé de reconstituer, tant bien que mal. C'est une technique de divination, mais ce que je retiens en fait de cette technique, c'est que en fait c'est une abolition véritablement du temps. Hein, c'est-à-dire c'est un moment où le présent, le futur et l'avenir sont immédiatement donnés en même temps. Et on peut, certains immortels, c'est le cas de Zuozi, en fait, pratiquent cette technique du tia caché, hein, donc du tronc céleste tia caché, et ça lui permet, dit le texte, de bien roi Wufang, de se livrer à des transformations et des modifications, Wufang sans direction, c'est-à-dire sans limite, hein, sans limite possible. Donc un rapport au temps qui est un rapport très particulier, qui est dans lequel le temps est véritablement maîtrisé et utilisé de la même façon que l'espace comme lieu de dissimulation, de retraite et d'évitement. Comme j'aime bien les formules qui ne veulent rien dire, je dirais que l'immortel est un maître de la faille. Bien. Donc, autre aspect important, hein, dans ce texte, il n'y a strictement rien qui soit dit sur la mort. Il n'y a aucune image de la mort. On ne vous dit pas qu'après la mort, il y a quelque chose. On ne vous dit pas que... on ne vous dit même pas le contraire. On n'en parle pas. Hein. Certains immortels meurent puis ressurgissent, mais il n'y a aucun discours sur la mort. La mort est vraiment le grand absent, hein, de cet ouvrage-là, pour indiquer effectivement que, et sans doute là dans ce cadre-là, pour désangoisser, hein, les populations qui d'une manière ou d'une autre, pourraient lire un texte comme le Shenzhen Zhuang. Alors, il y a un très beau texte, hein, qui évoque ces différents aspects, mais que je ne lirai pas ici, mais auquel je vous renvoie, c'est le texte consacré au premier personnage de premier immortel du Shenzhen Zhuang. Donc c'est Maître Guangcheng, que j'ai traduit par Maître ample et parfait, qui entre en dialogue avec le souverain jaune. Et je lis simplement en fait les quelques vers que répond le maître au souverain jaune. Essence du Tao suprême, infinie et lointaine, inaudible, invisible, embrasse l'esprit, reste immobile, la forme s'orientera d'elle-même, toujours immobile et claire, ne lasse pas ta forme, ne perturbe pas tes essences, ta vie sera longue, prudent au-dedans, fermé au-dehors, tenant savoir pour défaite. Bon, ça c'est une formule qui est modifié du Lao Tzu, hein, tenant savoir pour défaite, je garde l'un et loge dans cette harmonie, ma forme incorruptible depuis 2000 ans. Qui suit ma voix s'élève jusqu'à la souveraineté, qui la perd tombe en terre, défais-toi de toi-même,
pénètre par la porte de l'infini, randonne dans les plaines de l'illimité, partage l'éclat du soleil et de la lune, règle-toi sur la constance du ciel et de la terre. Un, les hommes meurent toute leur mort, et moi seul, je demeure. Bon, très beau résumé, hein, en fait, de ce que c'est que l'immortalité, hein, du point de vue de l'espace, du point de vue du temps, et du point de vue, en fait, d'une intériorité qui contient le monde tout entier. Hein. Et enfin, dernier point sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est la biographie de Maître Pierre Blanche. Maître Pierre Blanche, c'est pour moi, en fait, l'exemple même de ce que peut être, en fait, une figure de... pas simplement de libération, mais une figure de liberté. Alors, Maître Pierre Blanche, c'est, comme vous dit comme le texte que j'ai traduit vous le dit, il est élève de Messière Jaune et Centré, et il avait à l'époque de Pangzhou, c'est-à-dire le Mathusalem chinois, plus de 1200 ans. N'ayant pas consenti à cultiver le temps qui donne accès au ciel, il se contentait de ne pas mourir et de ne rien perdre des plaisirs à être parmi les hommes. Dans sa pratique, il s'en remettait à l'art des échanges et des contacts. C'est un être de rencontre, hein. Donc, essentiellement, il préconisait les simples aux sucs alcalins. Alors, bon, vous lirez peut-être le passage intermédiaire, mais en fait, ce qui l'intéresse, on vous dit qu'il se nourrit de viande séchée, qu'il boit de l'alcool, qu'il ne rejette pas les diètes à base de céréales. En une journée, il est capable de parcourir 30 ou 40 000 lits, en fait, plutôt que lieux, si bien qu'à la voir, on aurait dit une colonne de quelques 40 hommes. Par nature, il aimait à se rendre en audience auprès des esprits, les saluer et les servir. Il aimait la lecture des obscurs classiques et des commentaires sur la pureté suprême, le Shangqing, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et on lui demande, Pangzhu lui demande pourquoi il ne s'applique pas à la voie qui donne accès au ciel, et il répond, « Les joies du ciel, répondit-il, peuvent-elles égaler les humaines, celles parmi les... » Là, il y a un bug dans la traduction. En fait, il veut dire simplement que les joies du ciel ne peuvent pas égaler les joies humaines, hein, sur la terre, et il suffit que rien ne me vieillisse ni me mène à la mort. Dans le ciel sont par ailleurs nombreux les parfaits et les vénérables qui sont enrôlés comme dans le monde des hommes. Donc quelqu'un qui refuse de servir, hein, essentiellement, quelqu'un qui refuse toute attache, quelqu'un qui ne se limite à rien, hein, puisqu'il peut manger des viandes et en même temps ne pas refuser les diètes à base de céréales, ou ne pas refuser non plus les céréales, quelqu'un qui apprécie grandement l'alcool, et quelqu'un, en fait, qui passe son temps à rencontrer des gens. Hein? Alors, ça, si ce n'est pas l'image de la liberté, je ne vois pas ce que c'est. Hein? Donc, pour moi, c'est pas simplement de la libération, hein, comme on a souvent dit à propos de la pensée chinoise, qu'elle aurait développé en fait des techniques de libération de soi, mais il s'agit véritablement de construire là une figure d'un être libre, hein, d'un être libre. Alors, avec simplement un bémol, c'est que célèbre cet être libre n'est pas pour autant un être immoral. Ce n'est pas un dikang. Ce n'est pas un jointi, c'est un personnage qui préconise le naturel et qui se sont signalés dans l'histoire chinoise par leur extravagance. Hein. Le ciel est mon chapeau et la terre est mon pantalon, disait Dikang qui se promenait nu. Hein. Donc ça, non. Dans le livre des immortels divins, il y a une attaque assez précise, hein, de Dikang dans trois textes. Dikang apparaît comme un acolyte de quelqu'un qui est en chemin vers l'immortalité, et Dikang n'atteindra jamais l'immortalité, alors que les autres y parviennent, ces acolytes y parviennent très très facilement. Donc en fait, c'est pas le naturel iconoclaste de Dikang. Donc la liberté de l'immortel, c'est pas une liberté qui ferait fi de toute... éthique, en particulier. Voilà, on pourrait traduire là-dessus. Et je termine par un texte qui n'a rien à voir, mais que j'ai plaisir à vous lire. C'est évidemment un texte de Su Dongpo, hein, donc, mais ça, en une minute, c'est, je vais le lire. Le texte, c'est en fait le dernier texte d'une suite poétique de 13 textes que Suche a consacré à la lecture qu'il a faite du Baopuzi de Gehong, lorsqu'il est en exil, en fait, dans le sud de la Chine, à l'est de Canton, à Huizhou. Alors, c'est un texte étonnant de virtuosité. Donc, il parle de sa lecture. Hein, les 13 textes évoquent les réflexions de lecture. Et il compose un poème en répondant à Trao Yuanming, en utilisant les mêmes rimes que Trao Yuanming avait utilisées pour parler de sa lecture du Shanghai Jing, du classique des montagnes et des mers. Donc, vous voyez qu'on est dans un univers là complètement lettré, mais quand même avec une virtuosité extrême. Et dans le dernier texte, il dit, le reclus de la pente, c'est-à-dire Soudan pour lui-même, hein, à foi en l'homme étrange, hein, l'homme étrange, Tiran, c'est une expression qu'on trouve dans le Zhuangzi, qui a été comprise comme signifiant ou synonyme d'immortel. Mais à mon sens, il vaut mieux traduire en fait par l'homme étrange. Le reclus de la pente, à foi en l'homme étrange qui traverse le monde et disperse ses dons, un chemin mène encore au lac de l'absolu, suis-je venu pour rien dans ces monts qui dérivent. Comme serpent qui mue, comme les eaux stagnantes, l'esprit vide, sans présage et sans choix. Je tiens par la main eau vive, c'est la traduction que je propose pour le nom qui est donné à Gehong, Zhichuan, l'eau, la source vive, et mène clair dans la mine, bim, c'est-à-dire Trao Yuanming, Yuanming, c'est la clarté dans l'abîme. Je tiens par la main eau vive et mène clair dans l'abîme, entonne de son chant le refrain du retour. Retour donc à la vraie humanité que serait celle de l'immortel. Voilà, je m'arrête.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.